à vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Élodie.
Bonjour Audrey, bonjour à vous.
Acte 11 des Gilets jaunes, c'était samedi dernier le 26 janvier. Nouvelle manifestation à Bourg-en-Bresse, une manifestation dans le calme. Les forces de l'ordre n'ont tiré aucune grenade lacrymogène ni balle de défense, une première. Expérimentés pendant l'acte 10, les porteurs de lanceurs de balles de défense avaient tous une caméra piéton. Ce magazine est consacré au maintien de l'ordre face aux Gilets jaunes. Élodie, le samedi 12 janvier, tu étais au centre-ville de Bourg-en-Bresse pour couvrir la manifestation des Gilets jaunes.
Une manifestation qui s'est terminée de manière très violente avec l'assaut des forces de l'ordre au cœur du centre-ville parmi les passants. On entend de plus en plus parler de violences policières dans les médias. Les témoignages de victimes fleurissent sur les réseaux sociaux. Le journaliste David Dufresne interpelle même le ministère de l'Intérieur via son compte Twitter. Il recense les personnes blessées par des tirs de lanceurs de balles de défense, LBD, ou toute autre forme de violence de la part des forces de l'ordre.
Alors cette question, comment s'organise le maintien de l'ordre à Bourg-en-Bresse ?
Cédric témoigne dans Le Progrès. Il dit avoir été victime d'un tir de lanceur de balles de défense dans la main. Nicolas est aussi un gilet jaune depuis le début du mouvement. Il témoigne à notre micro. Racontez-nous ce qui s'est passé à Bourg-en-Bresse le samedi 5 janvier.
Donc le 5 janvier, comme la plupart des samedis, je me suis rendu sur la manifestation. Donc tout était calme, c'était ambiance bon enfant. Sur le coup des 16h45, 16h50, il y a une poubelle qui a été enflammée, qui a été jetée sur le dispositif de maintien de l'ordre. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu riposte en face, ce qui est normal. Et du coup, en fait, moi je suis à chaque fois présent, en train de filmer tout simplement... même des fois à un mètre des forces de l'ordre. Et du coup, quand ça part un petit peu sur des violences comme ça, généralement, je reste pas. C'est pas la tournure que ça prend qui m'intéresse. Du coup, j'ai décidé de rejoindre ma compagne et mes enfants qui étaient à ma voiture pas très loin. Donc du coup, je longe le tribunal. Et une fois arrivé à hauteur de 2-3 policiers qui étaient par là, toujours en train de filmer, une main dans la poche, l'autre avec le téléphone. Il y en a deux qui m'arrivent dessus, du coup donc j'utilise les mots, arrête de filmer toi, tu provoques, dégage.
Ça c'est ce qu'on vous dit.
C'est ça, voilà. Donc du coup je verrouille le téléphone, c'était un live Facebook en fait, c'était pas un enregistrement simple en local. Donc du coup je verrouille le téléphone pour pas qu'il soit cassé, je le mets dans la poche. Et bon, j'ai pris 3, 4, maximum 5 coups à la tête en fait. Donc voilà, une fois que tout ça s'est fait, ouais, dégage. Ouais, de toute façon, c'est ce que je faisais, j'allais à ma voiture. Donc je ressors le téléphone, je le redéverrouille, le live a continué. Donc malheureusement, j'ai pas grand-chose de ce qui s'est passé entre-temps en vidéo.
Est-ce que vous savez pourquoi on s'est dirigé vers vous de cette façon ?
Oui, oui, je sais pourquoi. Au final, c'est parce que j'étais porteur d'un masque à gaz et de lunettes. Donc ce qui pourrait... faire croire que j'étais là pour casser ou en découdre, alors que pas du tout, c'était une protection personnelle.
Alors pourquoi vous portiez un masque à gaz et des lunettes, puisque c'est quand même pas courant comme accoutrement?
Il y en a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal dans les manifestations. Après, bah, comme je vous le disais, c'est juste de la protection personnelle.
Est-ce que vous étiez déjà connu des services de police pour d'autres faits?
Du tout, jamais.
Et aujourd'hui, vous en êtes où dans cette affaire?
Dans cette affaire, je suis reconvoqué au mois d'avril. Ça va être une composition pénale et je passe en entretien avec une personne à la VEMA. Donc pour le moment, je ne sais pas de quoi il va s'agir.
Vous avez porté plainte contre les forces de l'ordre ? Contre qui ?
C'est obligatoirement contre X, puisque j'ai pas pu identifier la personne. Donc c'était contre X, forcément. Donc dès que c'est arrivé, je me suis rendu aux urgences de Fleuria, qui m'ont redirigé sur un rendez-vous à la maison médicale de garde un peu plus tard. Donc en sortant, je suis allé au commissariat, rideau de fer fermé, donc je suis repassé le lundi en fait. Lorsqu'on a pris ma plainte, on m'a dit on se reverra pour des faits d'outrage.
Donc en fait, il y a deux affaires dans une affaire.
C'est lié.
Les forces de l'ordre qui témoigneraient contre vous, qui porteraient plainte contre vous pour outrage.
Outrage, menace.
Et vous, qui portez plainte, pour coup ?
C'est ça, oui.
Et les outrages, c'est, ça concernerait quel moment dans votre témoignage? Parce que là, on n'a pas entendu ce...
Oui,
ça
alors
dans
c'est,
votre...
c'est au moment où la vidéo se coupe quand je verrouille le téléphone dans la poche. Alors forcément, j'ai fait des outrages et je l'assume.
Vous avez insulté les forces de
l'ordre. C'est ça.
Quel est votre regard sur les actions des forces de l'ordre dans le cadre des événements Gilets jaunes, sur leur façon de gérer ce mouvement?
Bah, disons qu'ils n'ont pas une place facile non plus. Je sais qu'il y en a parmi eux qui pensent la même chose que le peuple. Malheureusement, ils ont un statut qui les empêche un petit peu de le montrer, la neutralité, tout ça. Mais je pense que quand même, il y en a certains qui sont là aussi pour en découdre plus que ce qu'on croit du côté des Gilets jaunes, quoi. Dans mon parcours professionnel, il y a quelques années en arrière, j'étais gendarme. Donc c'est pour ça que je me mets aussi à leur place des fois.
Vous pouvez comprendre aussi leur manière de riposter face
pas
aux débordements.
Pas toutes les manières, non.
C'est-à-dire?
Bah, je pense que ça sert à rien d'arriver sur une personne et tout de suite être violent. On peut arriver vers une personne, parler calmement, même si c'est un petit peu tendu à cause des événements. Mais rien n'empêche d'ouvrir un dialogue sans aucune violence qui soit.
Yoann Foubert, vous êtes avocat à Bourg-en-Bresse. Vous allez défendre cette personne dont nous venons d'entendre le témoignage. Comment on défend un citoyen qui porte plainte contre la police?
D'abord, dans un premier temps, on vérifie la qualité des parties. Ce qui est très important dans ce type de dossier, c'est de vérifier que la police n'aura pas de délit ou d'infraction à reprocher à mon client. Et une fois que j'ai cette certitude-là, une certitude apportée par divers témoignages, apportée par des vidéos, apportée d'ailleurs par les forces de l'ordre elles-mêmes, on envisage soit la mise en cause de la responsabilité du fonctionnaire pour la faute qu'on pourrait éventuellement lui imputer, soit la responsabilité de l'État, responsabilité du fait de l'usage d'armes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou bien du fait de la faute du fonctionnaire.
Et quelles sont les conséquences possibles pour les policiers s'ils sont reconnus coupables?
Alors, on peut envisager deux plans, le plan pénal et le plan disciplinaire. Au plan pénal, cela suppose la démonstration de ce qu'une infraction a été commise. Ça pourrait tout à fait être des violences et qu'elle n'avait pas de justification. Dans cette hypothèse-là, une sanction pénale peut être prononcée à l'égard de l'auteur. Au plan disciplinaire, on aurait pu envisager également des poursuites aux fins de sanctions de la part de l'employeur, c'est-à-dire l'État, vis-à-vis de son subordonné. En l'espèce, c'était le fonctionnaire de police. Les conséquences pour mon client seraient finalement les mêmes, c'est que ça lui ouvre un droit indemnitaire. La seule nuance, en fait, c'est de savoir quel est le débiteur de cette obligation indemnitaire.
Depuis le début des mouvements Gilets jaunes, vous avez défendu plusieurs d'entre eux. Quels sont les profils de ces personnes?
Alors, étonnamment, c'est absolument pas le profil qui est décrit dans les réquisitions du ministère public le plus souvent ou dont on parle habituellement dans les médias. Moi, je m'attendais à des gens qui venaient très spontanément casser du flic, hein, c'est ce qu'on entend. On est loin de ce profil-là. Moi, je vois dans les manifestants qui sont poursuivis des pères de famille, des gens... pas très jeunes, des gens qui manifestent souvent pour la première fois et qui ont une conscience politique assez réduite dans la mesure où ils ne maîtrisent pas et où ils ne connaissent pas les corps intermédiaires, les relais d'opinion. Peu sont capables de me nommer le député de l'Ain. Peu sont avisés de ce qu'il y a des permanences tenues par le maire de la ville. Par contre, ils ont tous une vraie difficulté tirée des conditions de vie, tirée d'injustice qu'ils ressentent. Pas toujours d'ailleurs à l'égard d'eux-mêmes, mais également à l'égard d'autres. Et ils se sentent investis tous d'une mission de revendication pour les autres. Il y a un vrai élan de solidarité chez ceux-là. Par contre, pour tous, et là vraiment sans exception, les faits qu'on leur a reprochés et qu'ils avaient commis, hein, pour ceux qui ont été condamnés pour cela, c'était des faits d'une extrême banalité. en même temps que, pour une grande surprise, on a condamné à Bourg-en-Bresse une personne pour avoir jeté une meute de terre en direction de forces de l'ordre, sous la qualification de violence aggravée. On a condamné pour des dégradations ceux qui ramassaient des objets au sol pour les jeter. Aucun venait dans cette optique-là, mais il y a un mouvement général d'usure chez les manifestants qui les amène, sans qu'ils le comprennent eux-mêmes, sans même d'ailleurs qu'ils soient vraiment capables de l'expliquer ensuite, une fois redevenus comme vous et moi, ce qui les amène à commettre des infractions assez idiotes, sans grandes conséquences heureusement, mais qui sont très très sévèrement, pas nécessairement réprimés, mais qui en tout cas sont très sévèrement poursuivis.
Justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans le traitement des affaires Gilets jaunes au niveau de la justice ?
Ah bah, alors d'abord, à chaque fois qu'une infraction est commise, il est bien évident que le procureur de la République est en charge de la faire réprimer. Ça, c'est une évidence, mais je préfère qu'elle soit posée tout de suite. Il est bien évident également que lorsque les victimes sont des forces de l'ordre, c'est une affaire qui mérite un traitement particulier. Et vous ne m'entendrez pas dire le contraire. En revanche, ce qui est étonnant, c'est la rapidité de la réponse pénale, et c'est le traitement très particulier qu'on réserve à des délinquants qui souvent n'ont pas de casier judiciaire, sont même inconnus des fichiers de police. On va leur réserver un traitement particulier puisque la majorité d'entre eux sont présentés dans une audience particulière qu'on appelle l'audience de comparution immédiate, c'est-à-dire qu'ils sont présentés le lundi, après avoir commis des faits du samedi, donc immédiatement en sortie de garde à vue. La conséquence de ce choix procédural, c'est qu'ils rencontrent physiquement le procureur de la République le lundi matin et qu'à l'audience du lundi 13h30, ou du jeudi à Bourg-en-Bresse, le tribunal n'a pas expliqué, outre mesure, la détention et peut prononcer ce qu'on appelle un mandat de dépôt, c'est-à-dire une incarcération à la barre. Donc il faut comprendre qu'on est sur le schéma procédural le plus expéditif d'une part, mais aussi celui avec le plus fort enjeu, alors même qu'on poursuit des infractions qui sont un jet de pierre en direction de policiers, mais évidemment sans les avoir atteints, sans qu'il n'y ait de victimes directes. On poursuit des infractions de dégradation de biens privés pour avoir déplacé ou abîmé des poubelles.
Est-ce que vous êtes en train de dire que les peines données à ces personnes sont disproportionnées par rapport aux actes commis ?
Non, parce qu'on peut compter sur l'indépendance des juges du siège qui, au final, ont, eux, à juger des infractions qui leur sont présentées par le procureur de la République. On peut compter sur eux pour exercer en toute indépendance un véritable contrôle de la proportionnalité entre les faits et les peines.
J'ai entendu parler d'une personne, j'ai même croisé sur une manifestation une personne qui était interdite de séjour à Bourg-en-Bresse pour plusieurs mois. C'est étonnant comme peine.
Alors c'est une peine qu'on a peu l'habitude de voir prononcée par le tribunal correctionnel, surtout pour des faits de violence ou de dégradation commis à l'occasion d'une manifestation. C'est une peine c'est une peine complémentaire, c'est-à-dire qu'elle vient s'ajouter à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement. Elle a deux avantages. Le premier, c'est de permettre l'interpellation sans autre raison dans l'hypothèse où on croiserait ce manifestant de nouveau dans la commune. Donc ça a une volonté évidemment interpellative, c'est-à-dire que ça permettra des poursuites parce que c'est en soi un délit que de ne pas respecter cette obligation. Mais il y a aussi un effet préventif, puisqu'en l'interdisant du territoire de la commune pour 6 mois, on pourrait imaginer que le mouvement social soit interrompu dans 6 mois et donc que cette personne, en ne participant plus aux manifestations, ait en fait allégé, amoindri l'importance de ce mouvement.
La garde des Sceaux, ministre de la Justice Nicole Belloubet, a envoyé une circulaire au procureur de la République. Dans cette circulaire, il est question du traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre des événements Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que les procureurs sont sous l'autorité du procureur général, c'est-à-dire un procureur régional, pour faire simple, et que celui-là est également sous le contrôle et sous la direction du garde des Sceaux. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. On a un système judiciaire français qui fonctionne de cette manière. Ce qui est étonnant, ce qui nous a vivement interpellés, c'est que cette circulaire du 22 novembre 2018, très très récente hein, dans l'histoire du mouvement des Gilets jaunes, elle incite l'ensemble des parquets de France à faire preuve d'une fermeté exemplaire. Le ministre n'hésite pas à demander au procureur de faire preuve de réactivité dans la conduite de l'action publique. Donc on les invite clairement à la rapidité. Hein. Pourquoi ne pas écrire qu'on veut des audiences de comparution immédiate aussi souvent que possible. Et les invite également à apporter une réponse pénale systématique et rapide. On souhaite que les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre fassent l'objet de comparutions immédiates. Par cette circulaire, le ministre invite l'ensemble des parquetiers de France à agir vite et à faire frapper fort. Il a rencontré en revanche une opposition de la part des magistrats du siège, qui eux sont indépendants, qui savent encore, à l'heure où je vous parle, faire la part des choses, entre la nécessité de conduire une politique pénale, et donc plutôt répressive, et de l'autre côté, la nécessité d'apporter une réponse pénale juridiquement inattaquable pour des faits matériellement établis.
Ici, la politique, le pouvoir politique semble s'immiscer dans le judiciaire. C'est pas la première fois hein, que ça arrive. Hein. C'est Michel Alliot-Marie qui avait à l'époque défendu la notion de participation à un groupement pour pouvoir contenir des groupes de casseurs. Que veut dire cette notion de groupement ?
En fait, il faut comprendre qu'au début, on imaginait sanctionner le phénomène de gang, le phénomène de bande dans les banlieues. Et puis, on se sert maintenant de cette infraction un peu fourre-tout, parce que la définition est extrêmement large, pour réprimer la présence d'une personne au milieu d'une foule ou d'un groupe de personnes qui, entre eux, ne se connaissent pas, mais parmi lesquelles pourraient se trouver certains ayant commis des infractions de dégradation et de violence. Pour faire simple, au cours d'une manifestation, fut-elle déclarée d'ailleurs, lorsque sont commises des dégradations, tout le monde n'est pas responsable, n'est pénalement responsable que celui qui commet le fait. Le principe de cette infraction de participation à un groupement permet de reprocher pénalement une infraction à celui qui était présent dans la masse, mais auquel on n'a rien à reprocher personnellement.
Alors imaginons, samedi 12 janvier, j'étais au centre-ville, parmi les gilets jaunes, je faisais un reportage pour Radio B. Il y a eu souci avec les forces de l'ordre. J'aurais pu être arrêtée pour participation à un groupement à ce moment-là ?
Vous faisiez bien partie d'un groupe duquel étaient jetés divers projectiles en direction soit de forces de l'ordre, soit de vitrines. Donc ce groupe participait à des violences contre les personnes ou à des dégradations. Vous encourez une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Johan Foubert est avocat à Bourg-en-Bresse. Il défend notamment Nicolas, dont vous avez entendu le témoignage auparavant. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Du côté de la préfecture, tous les vendredis, les équipes techniques sont sur le pont. On protège les fenêtres avec des planches de bois et le préfet transmet ses instructions au service de police. Rencontre avec Étienne de la Fouchardière, le directeur de cabinet du préfet de l'Ain.
C'est quoi le maintien de l'ordre ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'objectif, hein, c'est de faire en sorte que les manifestations qui ont lieu sur la voie publique se déroulent en toute sécurité pour les manifestants et pour les populations environnantes.
Qu'est-ce que ça implique pour vos services à la préfecture ?
Cela implique d'abord un travail de renseignement hein, qui est celui du service du renseignement territorial qui dépend de la police mais qui a une compétence sur l'ensemble du département. Donc ce renseignement nous indique quelles sont les prévisions de manifestations, les prévisions de nombre de manifestants, les intentions aussi qui peuvent arriver ou pas à obtenir sur des demandes de la part des manifestants. Et au vu de cette physionomie, donc le préfet donne les directives, les grands objectifs, et ensuite la police, le commissaire de la police prépare son dispositif concret sur le terrain.
J'ai assisté à des scènes assez violentes le samedi 12 janvier au centre-ville de Bourg-en-Bresse. Des passants non gilets jaunes se sont retrouvés au cœur des actions des forces de police. Quelles étaient les directives ce jour-là ?
Je tiens d'abord à dire que le 12 janvier, comme les samedis précédents, les manifestations n'ont pas été déclarées, ou presque, ce qui est déjà une infraction, qu'il est en conséquence très difficile de distinguer qui était dans la manifestation, qui n'y était pas, qui a enlevé son gilet jaune au cours de la manifestation, puisqu'on a des réels et pour le coup prouvés de personnes qui ont été auditionnées par la police et punies par la justice. Donc c'est un point très important. Donc la personne qui vous dit « je n'y étais pas, je me suis fait taper », certes, je respecte la présomption d'innocence, mais il faut aussi voir dans quel mouvement on est. Donc c'est extrêmement difficile. On a par ailleurs eu ce samedi 12 janvier une vitre de la préfecture qui a été brisée. Ça fait suite à des actes violents d'agression, de jets de bouteilles, de poubelles incendiées au niveau de la préfecture. Ça, on a pu le voir aussi. Alors pas le 12 janvier, mais le samedi d'avant, et puis même samedi dernier, le 19 janvier. Donc on a systématiquement des actions violentes qui visent à la fois la préfecture, les forces de l'ordre très directement avec des messages très explicites sur les réseaux sociaux. Donc les consignes, elles sont extrêmement claires, c'est assurer la sécurité de la préfecture, des édifices publics, des commerces du centre-ville et de la population.
Concernant la population, hein, ce samedi 12 janvier, moi je me suis retrouvée à me réfugier dans un magasin pour enfants. Parce que les forces de police étaient en train de lancer des gaz lacrymogènes, des enfants n'ont respiré. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes victimes, quand même, là, des actions des forces de l'ordre ? Les enfants, ils n'avaient pas de gilets jaunes.
Là-dessus, j'appelle à la responsabilité des gens qui savent très bien que tous les samedis à Bourg-en-Bresse, il y a des manifestations, que systématiquement, depuis le 1er décembre, elles se finissent par des violences, des agressions très fortes, violentes, avec des blessés dans les forces de l'ordre, donc qui imposent une réaction tout à fait proportionnée par rapport à la menace et aux actes de la police. Donc c'est de la responsabilité des gens qui savent très bien que dans la fin d'après-midi, chaque samedi, malheureusement, et c'est vraiment très déplorable et je le condamne fortement, les actions se finissent dans la violence et à cette violence, les forces de l'ordre sont contrainte de répondre de façon tout à fait proportionnée.
En amont de ce samedi 12 janvier, le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, avait pourtant demandé au préfet d'interdire l'accès au centre-ville pour les manifestants. Pourquoi est-ce que le préfet n'a pas accepté sa demande ?
L'échange avec la mairie a bien eu lieu. Il y a effectivement eu cette demande du maire. Il y a eu un échange tout à fait franc et direct avec la mairie à ce sujet. La mairie a bien compris la position du préfet de ne pas accéder à cette demande. Pourquoi ? Tout simplement, puisque si vous fermez, interdisez tout le centre-ville, il faut pouvoir faire respecter l'interdiction. Par ailleurs, si vous mettez en place une interdiction sur un grand périmètre, il faut aussi, c'est une atteinte néanmoins assez importante à la liberté de circuler, de manifester, à la liberté aussi du commerce. Donc c'est aussi une décision qu'il est très facile d'attaquer juridiquement. Donc c'est pour toutes ces raisons, à la fois le risque juridique important et puis l'impossibilité matérielle de tenir une interdiction sur un grand périmètre au vu des forces disponibles, qui a conduit à la décision du préfet, qui a été totalement comprise par la mairie.
Le samedi suivant, le 19 janvier, le dispositif policier semblait un peu plus léger. La manifestation s'est déroulée dans la bonne humeur, avec la police municipale pour accompagner le cortège. Bon, il y a eu quelques échanges tendus avec les forces de l'ordre en fin de manifestation devant la préfecture. Le mouvement ne semble pas se relâcher. Comment est-ce que le préfet envisage la suite ?
Le samedi dernier, effectivement, la manifestation s'est mieux terminée, malgré tout. quatre interpellations et trois personnes en garde à vue, dont une qui a été condamnée ce lundi au tribunal. Si elle s'est bien passée aussi, c'est que les forces de l'ordre ont réussi à faire en sorte que les manifestants, en particulier les plus violents, qui viennent chercher clairement les forces de l'ordre encore maintenant, ont pu être poussés vers l'extérieur de la ville et non vers le centre-ville. Donc ça a vraiment été permis par une mobilisation qui était pas moins importante des forces de l'ordre. On était sur un dispositif en nombre qui était similaire. Donc la violence a probablement baissé un petit peu, mais c'est aussi l'action, la proaction des forces de l'ordre qui l'a permise. Sur la suite du mouvement, c'est très difficile à dire, puisqu'on est toujours sur quelque chose de totalement inorganisé. Nous n'avons contrairement à d'autres endroits, aucun groupe qui se structure en association. Il y a une volonté de ne pas se structurer. On a même des groupes qui se scindent, mais qui finissent quand même par tous venir à la manifestation le samedi à Bourg-en-Bresse, dont beaucoup pour en découdre, avec évidemment d'autres personnes qui se rajoutent, mais c'est le propre un peu de ce genre de manifestation en ville. Donc bien malin sera celui qui dira quand le mouvement sera fini. Néanmoins, voilà, le président de la République a lancé le grand débat. Voilà, maintenant, on milite pour que ce mouvement maintenant voilà se transforme en moment de débat, que l'occasion qui est donnée à la population de débattre, de faire valoir ses idées, que ce soit dans une réunion, dans un cahier de propositions en mairie ou directement sur la plateforme en ligne du grand débat, le fasse plutôt que d'aller chercher la confrontation avec les forces de l'ordre chaque samedi. C'est totalement stérile.
Dans certains pays comme en Belgique, on propose depuis plusieurs années la stratégie de la désescalade. Donc c'est les forces de l'ordre qui sont amenées à négocier, à viser le compromis pour éviter au maximum l'affrontement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense pour discuter, il faut des interlocuteurs fiables avec qui on peut échanger, par exemple déclarer une manifestation, un parcours, mettre en place un service d'ordre. C'est arrivé seulement deux fois à Bourg-en-Bresse qu'on ait une manifestation déclarée. Les deux fois, le parcours n'a absolument pas été respecté. Aucun dispositif de sécurité interne à la manifestation n'a été organisé. Donc la difficulté pour nous, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteurs. Donc moi, je suis tout à fait un partisan de la désescalade. Pour autant, il faut des interlocuteurs pour ce faire. Et à ce stade, nous ne les avons pas.
Une dernière question. Nous avons rencontré Nicolas qui porte plainte contre X pour le moment. Il déclare avoir été frappé par des policiers en marge d'une manifestation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes victimes des forces de l'ordre ? Pour le coup, hein, on a aussi cet article du Progrès qui relate l'histoire de Cédric, victime d'un tir de flashball.
Là-dessus, je vais être très très prudent dans la mesure où justement une enquête est en cours. La seule chose que je peux dire, c'est que les policiers n'utilisent pas la violence par plaisir, mais par nécessité. Si des personnes sont victimes de violences. Si des personnes font usage de la violence envers les forces de l'ordre, elles répondent. La violence ne vient jamais. Le policier n'agit pas, sans avoir été agressé au préalable. Après, pour l'instant, voilà, je peux pas faire de pronostic sur la situation, comment elle s'est réellement passée et comment est-ce que la justice en décidera. Mais en tout cas, moi, les éléments que j'ai, et puis c'est la politique de la police. Voilà, on n'a pas une utilisation de la violence qui soit faite sans qu'il y ait eu un acte délibéré envers elle au préalable.
Étienne de la Fouchardière, le directeur de cabinet du préfet de l'Ain, une interview réalisée le vendredi 25 janvier.
La police est au cœur du dispositif piloté par le préfet. Yves Sellier est commissaire divisionnaire de la police nationale et directeur départemental de la sécurité publique de l'Ain. Il était dans nos studios vendredi dernier, le 25 janvier. Alors Yves Sellier, vous êtes un acteur direct du maintien de l'ordre dans le département et à Bourg-en-Bresse. Depuis 2 mois, on assiste aux manifestations des Gilets jaunes, soit par des blocages de ronds-points, soit par des manifestations. Quelles sont les directives des services de police pour maintenir l'ordre le samedi à Bourg ?
Alors, notre action, elle est encadrée par la loi, évidemment, mais ce que l'on sait un petit peu moins, c'est que celle des manifestants, elle l'est aussi. Les manifestations, lorsqu'elles se déroulent sur la voie publique, ne sont pas interdites. D'une manière générale, elles sont soumises à déclaration parce que, c'est vrai, la liberté de manifester ou la manifestation, comme on veut, c'est un droit fondamental, voilà, qu'il nous appartient à nous de protéger. Cette liberté, elle est encadrée et il nous appartient d'essayer, je dis bien essayer, de faire respecter les équilibres entre les différentes libertés parce que la liberté de manifestation va s'arrêter là où commence celle d'aller et venir. Ou la liberté du commerce, ou la liberté d'utiliser, bon, ça n'en est pas une hein, au sens du droit fondamental, mais on voit bien que c'en est une, la liberté de circulation sur la voie publique. À partir du moment où vous coupez un rond-point ou un axe de circulation pendant des heures, eh bien évidemment, vous empêchez d'autres personnes d'exercer ce qu'ils estiment être leur liberté.
Alors pour le coup, là, les manifestations ne sont pas déclarées. A priori, elles ont été déclarées 2 fois, selon le directeur de cabinet du préfet.
Tout à fait.
Comment on gère ça, justement ?
Eh bien, comment on gère ? Si vous voulez, l'exercice va être le suivant, c'est-à-dire qu'un regroupement de personnes en grand nombre va se faire sur la voie publique et on le sait, se poursuivre par une déambulation, donc ce qu'on va appeler une manifestation, de manière un peu impropre, puisque évidemment, elle mérite d'être déclarée pour s'appeler comme telle. Et puis, dans la situation qui est la nôtre, ce qui va, moi, m'apporter, c'est assurer 2 choses. 1, la sécurité des manifestants. 2, la sécurité, et là je parle bien de sécurité et plus de préserver des libertés. Et la sécurité des tiers, ceux qui ne participent pas. Voilà. En troisième lieu, il m'appartient également de veiller à la sécurité des policiers. Voilà.
Samedi 12 janvier, j'ai assisté à des scènes plutôt violentes au centre-ville de Bourg-en-Bresse. Mm-hmm. C'était la première fois que je me rendais à une manifestation gilet jaune dans le cadre d'un reportage. Des passants non gilets jaunes, des familles avec des enfants, se sont retrouvés au cœur des actions des forces de l'ordre. C'était quoi la consigne ce jour-là ?
Alors, le samedi 12 janvier, c'était une situation un peu particulière parce qu'il y avait une pluralité de manifestations. Il y avait 2 cortèges qui sont partis de 2 endroits différents après avoir bloqué pour l'une un carrefour et pour l'autre un rond-point. Donc il faut bien savoir que la loi dispose qu'une personne qui va participer à une manifestation ou qui va organiser une manifestation, dont déclarer c'est un délit, et une personne qui va participer à une manifestation non déclarée peut être poursuivie. Et évidemment, tout ça, après les agissements dans cette manifestation, vont être aggravés de par le fait que cette manifestation ne soit pas déclarée. Les consignes, c'est évidemment, il est très compliqué de vouloir encadrer, encager ou empêcher les gens de manifester, donc il faut les laisser manifester. On n'a pas le choix, c'est, si vous voulez, comme un rapport de force. Je veux dire que si on exerçait de la violence légale, hein, puisque la nôtre, elle est encadrée par la loi, et en l'occurrence, eu égard au fait que c'est une infraction, comme je viens de vous l'indiquer, on serait fondé à pouvoir l'utiliser dès le départ. Mais ce serait, en tout état de cause, causer peut-être un trouble à l'ordre public bien plus important que celui qu'on cherche à réprimer ou à contenir. Donc la consigne, c'est de laisser les gens manifester tant qu'on n'a pas d'action violente, soit contre les biens, soit, et évidemment là c'est un peu plus sensible, contre les personnes ou contre les policiers, ce qui est arrivé quasiment systématiquement depuis le 1er décembre.
Mais là, des familles avec des enfants ont été gazées.
Oui, alors.
Des passants qui faisaient les soldes, comment on explique ça ?
Ah, comment on explique ça ? Eh bien, on l'explique assez simplement. C'est que l'action de dispersion s'est réalisée dans le centre-ville parce que les manifestants ont décidé d'aller chercher les policiers qu'ils n'avaient pas beaucoup vus sur le parcours de la manifestation. C'était ma stratégie générale. C'était de essayer de faire diminuer la présence policière.
Alors, il y avait quand même l'hélicoptère de la gendarmerie au-dessus des têtes des manifestants.
C'était de faire diminuer la présence policière. afin d'envisager la possibilité que ce soit notre présence qui cristallise les volontés d'en découdre de quelques dizaines d'individus qui participent à ces manifestations. Donc fort logiquement, on avait pris un petit peu, même carrément, on avait pris nos distances par rapport au cortège de la manifestation. Vous l'avez bien noté puisque vous parlez du 12 janvier, la police prend ses distances par rapport à la manifestation, donc elle ne se retrouve plus au contact. Elle n'est plus ni au contact physique, ni au contact visuel. Il y a une pluralité de cortèges, donc comment je fais pour savoir où se trouve la manifestation? Parce que les policiers infiltrés, voilà, c'est la légende urbaine. Hein. Donc comment je fais pour savoir où se trouvent les manifestations à l'instant T, sachant qu'il y en a deux et que la police est en réserve à l'extérieur afin de ne pas être visible?
Eh bien,
vous venez de le dire, eh ben, pourtant il y a un hélicoptère. Eh ben oui, ça sert à ça l'hélicoptère. Ça permet d'avoir un visuel, fort logiquement, vous l'avez compris.
Ça crée quand même un sentiment d'insécurité ou de...
Alors enfin, ça, peut-être en tout cas, que chez moi, vous, ça vous a créé un sentiment d'insécurité.
Ouais.
Il y a des gens que ça a rassuré.
Je me suis dit que c'était la guerre, en fait. Je me suis dit,
la guerre, la guerre, c'est pour les militaires, nous, on fait
la police. Ouais, je sais. Voilà. Bah oui, mais la gendarmerie... Voilà.
La gendarmerie, c'est une force à statut militaire, c'est une force de police à statut militaire.
Voilà.
Et pour information, l'hélicoptère qui était là l'après-midi, parce que vous évoquez surtout celui-là, eh bien c'est l'hélicoptère du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix.
Voilà, mais il a quand même créé une sensation un petit peu étrange. Tout le monde s'interrogeait sur sa présence, en tout cas dans le cortège, c'était sûr. Et dans les passants que j'ai croisés ensuite, puisque moi je me suis réfugiée dans un magasin, les passants étaient complètement choqués. Les enfants avaient les yeux grands ouverts.
Donc je vais poursuivre justement, parce qu'il y a une forte incompréhension de votre part sur la manière dont on peut faire du maintien de l'ordre. Donc les manifestants ne nous trouveront pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont été nous chercher là où ils imaginaient qu'ils pourraient nous trouver. Et effectivement, ils nous ont trouvés. Donc, ils ont été une partie du cortège qui n'était pas la majorité, hein, parce qu'il y avait entre 450 et 500 manifestants. Ils sont venus à 200 environ. Ils ont redescendu l'avenue Alsace-Lorraine. Ils ont emprunté la rue Bichat. Ils sont venus à l'hôtel de police. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, parce que je ne peux pas laisser approcher près de l'hôtel de police qui ne bénéficie pas d'une sécurisation passive comme en bénéficie l'hôtel préfectoral, j'ai donc fait déployer une force en barrage, voilà, et la force en barrage a été agressée. Ils ont donc riposté, et le gaz a cela de particulier qu'il est volatile, donc le maintien de l'ordre c'est pas de la microchirurgie, donc le gaz effectivement il va s'évaporer un peu partout au fur et à mesure de la manœuvre qui s'est déroulée en centre-ville. Alors je déplore moi qu'on ait été obligé de faire du rétablissement de l'ordre en centre-ville, parce que comme vous l'avez noté, c'est pas un plaisir qu'on a d'exercer la violence, petit 1. Petit 2, dans des circonstances qui ne sont pas choisies, que nous subissons. Et puis, dans un endroit aussi qui n'est évidemment pas propice. Et à un moment, les seuls le samedi après-midi, mais ça, ce n'est pas nous qui choisissons d'organiser les manifestations et quand on les organise. À un endroit et à un moment qui ne sont pas propices. Voilà. Maintenant, savoir si l'hélicoptère, ça va stresser ou pas, c'est bien le cadet de mes soucis. Voilà. En plus, chère madame, j'entends parfaitement, eu égard à votre sensibilité, que vous ayez pu être impressionné.
Oui, c'est la première fois en fait que je voyais forces de police chargées.
J'aurais voulu savoir combien de manifestations vous avez assisté.
Très peu, mais voilà. à chaque fois, elles étaient calmes. En fait, toutes les manifestations que j'ai faites étaient calmes et j'ai jamais eu affaire effectivement à des forces qui chargent. Alors moi, j'ai pas compris. Je me suis retrouvée face à un cordon de policiers, de CRS. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas les définir. Je suis une citoyenne lambda, pas du tout informée sur les différents corps de métier, et je me suis retrouvée face à ces personnes qui avançaient avec des boucliers masqués. C'est plutôt impressionnant et ça fait un petit peu peur quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Je suis peut-être un peu naïve.
Non, pas du tout. Mais voilà. C'est pas nécessairement fait pour rassurer non plus, c'est certain.
On est d'accord.
Il faut bien savoir que nos mouvements ou les mouvements des policiers dans ces cadres-là s'inscrivent dans une logique de rétablissement de l'ordre. Je me suis toujours attaché, depuis le début du mouvement, à ne pas utiliser la force sans que les policiers aient été préalablement pris à partie. Voilà. Donc je l'ai toujours utilisé en riposte, alors même que la loi me permet de disperser une manifestation sans avoir à en subir préalablement les scories et les violences. Voilà. Donc effectivement, j'entends que certaines personnes aient pu être impressionnées, voire pour certaines autres choquées, mais on est dans une ville qui n'a pas de tradition manifestante. On est dans une ville où, lorsqu'il y en a, on assiste souvent à des petits regroupements de partis ou de syndicats plutôt traditionnels qui occupent l'espace public un instant devant la préfecture avec quelques pancartes et quelques slogans. Et là, effectivement, on est dans une logique, mais ça ne vous aura pas échappé au niveau national, qui est tout autre.
Voilà. Justement, venons à vos moyens d'action. Le flashball ou lanceur de balles de défense,
c'est pas la même chose.
LBD.
Ouais. Justement, là, déjà, il y a un problème de définition.
Voilà, c'est
le flashball ou le lanceur de balles de défense, c'est pas la même chose. C'est le lanceur de balles de défense.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de lanceur de balles de défense?
Parce que le flashball a été retiré des mains de la police nationale, et c'est très bien d'ailleurs, des mains de la police nationale et des forces de l'ordre en général, début 2010.
Et du coup, moi j'ai lu que c'était considéré comme une arme à létalité réduite.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une arme qui ne tue pas.
Ou un petit peu.
Non, c'est une arme qui ne tue pas.
Ouais. En janvier 2018, Jacques Toubon, le défenseur des droits, avait recommandé de ne plus utiliser ces lanceurs de balles de défense. Est-ce qu'ils sont utilisés à Bourg-en-Bresse et dans quelle situation?
Alors, le lanceur des balles de défense, c'est une arme dite intermédiaire qu'on utilise dans le cadre du maintien de l'ordre ou des violences urbaines. Son utilisation, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une arme, elle est encadrée parce qu'il y a une graduation dans le maintien de l'ordre. On utilise d'abord ce qu'on appelle des bons, voilà, des bons qui sont offensifs, qui ont vocation à faire peur en manifestant pour pouvoir les disperser.
Ça veut dire une avancée.
Ça, on avance, voilà. On avance avec les boucliers masqués et les casques, exactement ce qui vous a fait peur.
Voilà, c'est
fait
pour ça. Ça a marché, c'est fait pour moi ça. En tout cas.
Ensuite, on va avoir l'usage de la force, et cela comprend les bâtons de défense, les tonfas, les matraques, si vous préférez, et également le gaz lacrymogène. Donc ça, ce sont les situations d'utilisation de la force où on va chercher à disperser la foule, hostile ou pas d'ailleurs, sans utilisation de l'arme. L'utilisation de l'arme répond à une logique qui est différente, donc avec une graduation qui est plus importante, où là, par exemple, on va avoir une légitime défense pour les policiers qui vont être pris à partie avec des jets de projectiles, des jets de pétards, des jets de boules de pétanque, des jets de mortiers, de fusées d'artifice, des jets d'acide. Voilà, ce qu'on a eu à Bourg-en-Bresse. Hein. Essayer de mettre hors d'état de nuire, pas de tuer évidemment, parce que le but du maintien de l'ordre, c'est pas de tuer des gens. Hein. On essaye de faire une gestion démocratique, d'avoir une gestion démocratique des foules. Ou des gens qui se présentent sur des manifestations avec des armes par nature, voilà, des bottes de baseball cloutées, des couteaux, des boules de pétanque. Voilà. Donc, lorsque les violences qui sont exercées sur les policiers vont peut-être empêcher les policiers de maintenir le territoire qu'ils occupent, sans se défendre avec l'usage des armes, on utilise les armes et on utilise notamment le lanceur de balles de défense, qui est une arme intermédiaire entre ce que je vous indiquais, les grenades lacrymogènes, et l'utilisation de l'arme à feu, voilà, qui évidemment est une des solutions du rétablissement de l'ordre, mais qui n'a pas cours, qui est théorique, si vous voulez. Elle n'a pas cours sur le territoire national, puisque à plusieurs reprises, on a connu sur le territoire national des situations de maintien d'ordre où les policiers essuyaient des tirs à balles réelles et n'ont jamais riposté.
Dans le Progrès du 17 janvier, Cédric, 37 ans, témoigne avoir été victime d'un tir de lanceur de balles de défense.
Oui.
Le journaliste David Dufresne recense sur son compte Twitter les victimes de violences policières. Il semble y en avoir beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Alors, vous me posez la question pour Bourg-en-Bresse ou vous me posez la question pour la France?
En général.
En général, il y a beaucoup de violences policières. Il y a beaucoup de gens
D'après le compte Twitter, vous le connaissez ce compte Twitter?
Le compte Twitter du Défenseur des Droits?
De David Dufresne.
Ah, de David Dufresne. Non, je consulte pas le compte Twitter. Non, je consulte très peu les réseaux sociaux. J'ai des gens qui, chez moi, s'occupent de ça. Mais moi, à titre personnel, j'évite d'aller sur les réseaux sociaux.
Et les violences policières, vous n'en avez pas entendu parler là dans le cadre des événements?
Je trouve que ça pollue un petit peu l'esprit. Donc évidemment, il est de bonne guerre, sans jeu de mots évidemment, que de dénoncer les violences policières. Il y a beaucoup de violences policières, parce que moi je vais parler de Bourg-en-Bresse, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Il y a beaucoup de violences policières qui ont été dénoncées sur les réseaux sociaux ou par le truchement des médias, y compris dans l'Ain et à Bourg-en-Bresse. Hein. Aujourd'hui, à Bourg-en-Bresse, nous avons enregistré une plainte. Elle a été enregistrée à Oyonnax pour une manifestation bressane. Et c'est une dame qui a dit avoir été victime d'un tir de lanceur de balles de défense dans le pied.
Nous, dans le cadre de cette émission, on a rencontré Nicolas, un gilet jaune qui a porté plainte contre X. Sur sa vidéo, on le voit roué de coups de poing par deux personnes que l'on imagine représentantes des forces de l'ordre. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire ?
Absolument pas. Alors, je ne suis pas au courant de Nicolas. C'est peut-être un prénom d'emprunt.
Il est venu déposer plainte auprès de la police de Bourg-en-Bresse.
D'accord, contre X ? C'est contre ça. Des gens qu'on imagine être...
En décembre 2018, des policiers manifestaient. Eux aussi, ils dénonçaient leurs conditions de travail et notamment les heures supplémentaires qui s'accumulaient. Dans quel état ils sont, ces hommes, ces femmes, en charge du maintien de l'ordre ?
Alors, on vit évidemment un moment qui est un peu, même très particulier, même particulièrement singulier. Et oui, évidemment qu'il y a de la lassitude et qu'il y a de la fatigue. Il appartient à la hiérarchie policière de faire en sorte que les personnels puissent être physiquement, psychologiquement, physiologiquement en état de pouvoir faire du maintien de l'ordre. Parce que, évidemment, des policiers qui travaillent beaucoup, parce qu'ils vont accumuler le nombre de jours travaillés, parce que, évidemment, la police nationale, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut qu'ils soient dans le meilleur état possible pour gérer des situations qui vont parfois être très dégradées, avec une violence d'une intensité qui est importante, et pour éviter qu'on puisse avoir des situations où on ait un Nicolas qui vienne déposer plainte contre X, contre des gens qui se disent qu'on pourrait au conditionnel imaginer, donc c'est très subjectif, faisant partie des forces de police. Eh bien, moi, ce que je cherche, c'est à éviter, si tant est que ça se soit un jour arrivé, que ce soit le cas. Donc, on fait en sorte de pouvoir les préserver, même si, effectivement, il y a de la fatigue qui s'accumule et de la lassitude aussi qui s'accumule au sein des rangs des policiers bressants.
Samedi 19 janvier, le dispositif policier m'a semblé plus léger. Est-ce qu'il y a des nouvelles consignes sur la gestion des gilets jaunes ?
Non. Si vous voulez savoir s'il y a des consignes nationales ?
Même
ou
vous,
des consignes préfectorales.
Oui, j'ai trouvé que c'était plus léger en tout cas. Moi, j'ai trouvé
Il y a eu moins de violence. Alors, ça ne vous aura peut-être pas échappé, j'ai lancé un test samedi matin.
J'allais vous en parler.
Voilà.
L'utilisation de caméras.
Voilà, où j'ai couplé l'utilisation de caméras piétons avec les policiers qui étaient porteurs de lanceurs de balles de défense, parce que malgré tout, même sans suivre personnellement les réseaux sociaux, on s'aperçoit, dans la droite ligne de ce que vous avez indiqué, que les gens se répandent contre les violences policières et se disent victimes de lanceurs de balles de défense. On s'est aperçu, parce que l'intensité a quand même malgré tout diminué au cours de ces semaines, on a diminué notre nombre de tirs de lanceurs de balles de défense, et vous l'avez lu dans la presse, on arrivait à 3, 4, 5, 7, 8, bon, entre 5 et 10 tirs. Et on voyait fleurir de plus en plus de victimes. Alors bon, ça me rendait quand même interrogatif. Sachant que le premier jour, on avait fait 65 tirs et personne ne s'est dit victime de quoi que ce soit. Alors même qu'on est sûr qu'on a impacté des gens. C'est fait pour ça. Quand on tire sur quelqu'un, c'est pour le toucher.
Avec des règles, on peut
Avec des règles, évidemment. On a une distance d'utilisation entre 3 et 40 mètres. On doit impacter les membres inférieurs, c'est-à-dire en dessous de la ligne des épaules. Voilà, un policier n'a rien à gagner à tirer dans la tête de qui que ce soit. Voilà, il sait qu'il a que des ennuis à avoir, il a absolument rien à gagner. Voilà, il faut dire aussi d'une manière générale, alors là on s'éloigne un peu du sujet, mais quand on est dans une situation qui est très dégradée, j'aime bien utiliser ce terme-là, et bien nécessairement, on risque d'avoir des tirs qui le sont aussi. Voilà. Parce que quand on a de la violence qui s'exerce sur vous et que vous ripostez, c'est pas forcément aisé que de riposter. Voilà. Et surtout, par rapport à ce test de samedi matin, j'ai cherché à le communiquer vers les manifestants pour justement empêcher, cette tendance à vouloir se répandre dans les réseaux sociaux ou dans la presse en disant « oui, j'ai été victime d'un tir de lanceur ». C'est la police qui m'a tiré dessus. Je passais par hasard et j'ai reçu un coup de flashball, voilà, puisque c'est le terme qu'ils emploient, dans la tête. Bon, très bien. Donc j'ai décidé de doter de caméras piétons à tous ces porteurs de lanceurs, de dire aux gens bon, écoutez, voilà, maintenant les policiers sont porteurs de cette caméra. Elle sera en fonction lorsqu'ils procéderont à des tirs. Si jamais vous venez vous plaindre, eh bien, il sera facile, aisé d'exploiter les caméras qui qui auront été en fonctionnement à ce moment-là.
Et dans les revendications des policiers au mois de décembre, toujours, il y avait aussi cette demande de plus de matériel. Est-ce qu'il y a assez de budget pour doter tous les policiers en caméra, enfin tous les policiers qui auraient entre leurs mains des LBD, deux caméras?
Aurait suffisamment de caméras pour les doter?
Bah oui.
Oui. Alors, en ce qui concerne Bourg-en-Bresse, parce que là encore, je vais vous répondre pour Bourg-en-Bresse, la réponse est oui. Puisque nous avons 12 caméras piétons, soit le double de caméras piétons au nombre de lanceurs. Donc il n'y a pas de souci, on peut même mettre deux caméras sur chaque policier. En ce qui concerne la police nationale en France, j'aurais du mal à vous répondre parce que j'ignore le nombre de lanceurs déployables à l'instant T sur le territoire national. Je peux simplement vous dire qu'on a 10 500 caméras piétons dans la police nationale.
On a beaucoup abordé cette notion de violence policière. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt privilégier la stratégie de la désescalade? Donc, pour rappel, c'est une stratégie notamment utilisée en Belgique où les forces de l'ordre privilégient le compromis et la négociation pour éviter le conflit.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on le fait très fréquemment en France. Lorsqu'on est en capacité d'identifier des gens qui sont à l'origine de l'organisation ou du leadership d'une manifestation. Ça ne vous aura pas échappé, puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, seuls deux des manifestations que nous avons vécues au cours des 10-11 dernières semaines maintenant, puisque celle qui va arriver samedi très vraisemblablement n'est toujours pas déclarée, qui nous empêche d'avoir des interlocuteurs et qui nous empêche de nous adresser à eux. Donc on est... C'est très difficile de négocier avec quelqu'un qui ne veut pas venir vous parler.
Vous aviez organisé une rencontre entre les habitants de Bourg-en-Bresse et la police en octobre 2018.
Oui.
Est-ce que ça pourrait être une solution?
Alors, je ne pense pas que ce soit une solution, parce que c'est deux temps différents et deux objectifs qui sont différents. Enfin, le rétablissement de l'ordre et le rétablissement du lien avec la population, c'est deux optiques, deux façons de faire et deux moments qui sont différents.
Vous pensez qu'on en est où dans la relation entre les forces de l'ordre et les citoyens? Qu'est-ce que vous ressentez, vous?
C'est difficile, parce que le spectre à travers lequel je vois la relation entre la police et la population, elle ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Parce que les policiers, ils ont affaire qu'à des personnes qui sont insatisfaites. Ils sont insatisfaits. Les gens qui poussent les portes de l'hôtel de police, elles sont insatisfaites parce qu'elles sont victimes. Donc la police n'a rien fait pour empêcher qu'elles soient victimes. Les gens que nous ramenons, nous, à l'hôtel de police, ce sont des auteurs. Ils sont nécessairement mécontents du fait qu'ils aient pu être interpellés. Les gens qui manifestent, et qui, dans une manifestation, qui sont pour une certaine partie d'entre eux très calmes, très pacifiques, d'ailleurs pour une majeure partie d'entre eux chez les manifestations des Gilets jaunes, jusqu'à maintenant, la très grande majorité d'entre eux sont pacifiques, ils ont des revendications qui pour certaines d'entre elles peuvent être légitimes, et puis vous avez une partie plus ou moins importante en fonction de la taille de la manifestation, 20, 30, 40, 50, 80, 100, on a pu le dénombrer même au-delà, de personnes qui viennent uniquement, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que cela nous donne, uniquement pour en découdre avec la police. Bilan, comme vous l'avez indiqué, on utilise la force au départ avec des gaz lacrymogènes et ces gaz vont aller toucher des gens qui ne nous sont pas hostiles et auxquels d'ailleurs nous non plus ne sommes pas hostiles, à l'égard desquels nous ne sommes pas non plus hostiles. Mais je vous l'indiquais, le maintien de l'ordre, c'est pas de la microchirurgie, donc nécessairement ça va les concerner. Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi. Et on n'est pas en état de leur expliquer à l'instant T ce que je viens de vous dire. On est dans des situations de tension. En plus, on sait très bien que lorsqu'on est en foule, la foule fait perdre la notion du bien et du mal chez un certain nombre de ses participants. Et puis, il y a un effet de galvanisation général. Bon, bref. Donc, je pense, moi, qu'effectivement, et je l'ai indiqué, la police paye le café pourra être un instrument pour, et je l'espère, lorsque ces mouvements seront terminés et que les choses se seront apaisées pour essayer de renouer le dialogue avec des gens qui peut-être resteront sur des schémas en disant la police elle nous a agressés dans les manifestations, pas très loin de ce que vous m'avez indiqué tout à l'heure, et ça permettra peut-être d'expliquer ce que vous avez la chance que je viens de vous expliquer.
La proposition d'Yves Sellier a été reprise par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Tous les policiers détenteurs de lanceurs de balles de défense étaient équipés de caméras ce samedi. À Bourg-en-Bresse, aucune grenade lacrymogène ni balle de défense n'a été utilisée contre les Gilets jaunes pendant l'acte 11.
Merci à nos invités.
Radio B.
Radio B.
Dans le contexte des manifestations Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe reprend une proposition de loi proposée par le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. C'est la loi dite anti-casseurs. Cette loi votée au Sénat s'inspire d'une loi visant les hooligans.
Quelles sont ces propositions ?
La création d'un fichier spécifique pour les casseurs qui permettrait aux autorités administratives, préfets ou maires d'interdire à certaines personnes de manifester. La création de périmètres de protection au sein desquels les forces de l'ordre auraient des possibilités étendues, fouilles, interpellations, contrôle d'identité automatique et l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public.
Où en est-on dans ce projet ?
Les députés de La République En Marche ont pu débattre de cette proposition hier soir avec le Premier ministre et plusieurs modifications auraient été apportées. L'article concernant les périmètres de sécurité devrait être reformulé. La création du fichier national ne semble plus être à l'ordre du jour. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale à partir de demain, mardi 29 janvier.
Radio B.
Un rendez-vous entre des gilets jaunes et Jean-François Debat, le maire de Bourg.
Ça s'est passé vendredi soir à la mairie, des échanges retransmis avec l'accord du maire en direct, en vidéo, sur des groupes Facebook. L'une des 5 personnes présentes l'a précisé, nous ne sommes pas des représentants, nous sommes simplement des citoyens et des gilets jaunes parmi tant d'autres. Un rendez-vous pour évoquer différents sujets. Qui sont les gilets jaunes ? Les violences policières, les revendications principales et le grand débat. Objectif, faire avancer le mouvement et organiser des assemblées citoyennes. Avant ce rendez-vous, le maire avait déjà reçu 2 fois d'autres gilets jaunes. Radio B a assisté à cette rencontre. Nous en parlerons dans ce magazine lundi prochain, le 4 février à 17h15.
Grand débat national.
Bourg-en-Bresse met à disposition gratuitement des salles pour organiser des réunions. La salle des fêtes ou un autre lieu, selon les besoins et les disponibilités, pourront accueillir les échanges.
Et quelles sont les conditions ?
Une seule condition, qu'il y ait au moins un habitant de Bourg dans les organisateurs. La ville précise, elle mettra à disposition le kit gouvernemental créé pour l'animation de ces réunions. Ce document de 6 pages, téléchargeable sur le site granddebat.fr, donne quelques conseils pour choisir une date, la disposition de la salle ou encore comment en rendre compte.
À noter plusieurs rendez-vous. À Bourg-en-Bresse se tiendra chaque samedi après-midi à partir de 17h des assemblées citoyennes ouvertes à tous. Ça se passe pour l'instant à la salle 023 à l'AGLCA, la maison des assos, mais une demande a été envoyée pour la salle des fêtes. Le vendredi 8 février, du côté d'Oyonnax, rendez-vous à Val-Expo à 19h30 pour une réunion d'information sur le mouvement et les actions des Gilets jaunes ainsi que le référendum d'initiative citoyenne. C'est organisé par les Gilets jaunes du Haut-Bugey.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Élodie, merci à nos invités, merci à Théophile à la réalisation et merci à vous pour votre écoute.
Lundi prochain, le 4, on parlera de l'avenir du mouvement. Des pétitions circulent pour réclamer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Des réunions s'organisent. La CGT appelle à la grève générale et aux manifestations le mardi 5 février dans toute la France pour répondre à l'urgence sociale.
Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.